Antique, l'appli mobile totalement gratuite et enrichie de nouvelles fonctionnalités vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue, l'antenne vous appartient. Ce matin, nous jouons les prolongations après les deux derniers matchs des huitièmes de finale de la CAN. Deux matchs pleins de suspense. Hier, l'Égypte et à la grande surprise, la Guinée équatoriale se sont donc qualifiés au tir au but aux dépens de la Côte d'Ivoire et du Mali. Que retiendrez-vous de ces huitièmes de finale? Vos réactions nous intéressent et je vous attends également pour commenter le tableau des quarts. Il est désormais complet. Burkina Faso, Tunisie, Gambie-Cameroun, Égypte-Maroc et Sénégal-Guinée-Équatoriale. Comment voyez-vous la suite de la compétition? Quelles équipes peuvent créer la surprise? Vos pronostics 33 9 693 693 70 et comme tous les matins évidemment, je vous attends sur nos réseaux sociaux. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction de RFI pour mieux comprendre l'actualité. Dieudonné nous a contacté de Lomé au Togo. Bonjour Dieudonné.
Bonjour la RFI.
Bienvenue justement sur RFI. Vous avez des questions, Dieudonné, sur les troupes danoises déployées au Mali?
Oui. Ok. Au Mali, le président de la transition a exigé le départ des militaires danois de la force européenne Takuba. Ils se seraient déployés sans l'accord de Bamako. J'ai deux questions à poser. Allez. La première... Comment expliquer que les autorités maliennes n'aient pas été tenues au courant des arrivées des forces danoises?
Oui, c'est vrai que le gouvernement malien a manifesté, je cite, son étonnement en constatant effectivement le déploiement sur son territoire d'une centaine de soldats danois. Dans la foulée, Bamako, vous le disiez, Dieudonné, a demandé le départ immédiat de ce contingent. Bonjour David Baché.
Bonjour Juan, bonjour Dieudonné.
Journaliste au service Afrique de RFI, les autorités maliennes qui d'ailleurs hier soir ont réitéré leur demande de voir partir les soldats danois. Comment expliquer, David, que Bamako n'ait pas été informé de l'arrivée de ces soldats?
Alors en fait, ce que le gouvernement malien de transition déplore, c'est que les soldats danois aient été déployés sans son consentement. Mais le Danemark affirme avoir reçu une invitation claire pour ses forces spéciales. Dans un communiqué, le ministère danois des Affaires étrangères explique que la contribution danoise a été acceptée à la fois par le précédent gouvernement malien et à plusieurs reprises par l'actuel gouvernement de transition. Alors Copenhague détaille l'ensemble de la procédure administrative suivie, notamment sur le statut de ce contingent qui adhère au SOFA, l'accord sur le statut des forces établi par la France, comme c'est le cas de tous les pays européens de Takuba qui envoient des forces spéciales au Mali pour la lutte antiterroriste. La diplomatie danoise évoque même les rencontres de son ambassade avec le ministre malien de la Défense, le colonel Sadio Camara, en avril dernier, ou les échanges du ministre danois des Affaires étrangères avec son homologue malien Abdoulaye Diop il y a 4 mois, au cours desquels les ministres maliens auraient clairement exprimé leur satisfaction et même leur remerciement pour l'engagement danois au sein de Takuba. Donc Copenhague s'étonne de la demande malienne d'obtenir un accord bilatéral jugé acquis et demande à son tour des clarifications.
Oui, et le gouvernement malien a apporté hier soir ces clarifications.
Absolument. Le gouvernement de transition juge le message de la diplomatie danoise non approprié. Le gouvernement malien a précisé qu'en novembre dernier, une note verbale avait précisé aux Danois que leur requête était sous examen, que la participation danoise était en conséquence toujours à l'état de projet et que le déploiement de ses forces spéciales n'avait pas encore obtenu d'accord. Du coup, Bamako demande à nouveau aux Danois de retirer leurs soldats qui, je le rappelle, sont toujours en attente à Ménaka, dans le nord du pays, où ils venaient juste d'arriver. Ultime précision du gouvernement malien de transition, la Norvège, le Portugal et la Hongrie attendent eux aussi la validation du statut de leur contingent et ces pays n'ont, contrairement au Danemark, pas déployé leurs soldats.
Oui, justement, vous avez une autre question, Dieudonné?
Oui, j'ai une autre question. Cette affaire remet-elle en cause la présence de la force Takuba dans le nord-ouest du pays?
Ah, David Baché.
Alors, on n'en est pas là, mais le malaise est grand. Et justement, hier soir, 15 pays qui contribuent à la force Takuba ont signé une déclaration commune. Donc dans ces 15 pays, il y a le Danemark, il y a la France, il y a aussi l'Estonie, la Suède, l'Italie, je les cite pas tous, mais ces pays regrettent la position du gouvernement malien. Ils insistent sur le cadre juridique solide, agréé avec le gouvernement souverain du Mali, les mots comptent. Ils répètent qu'une invitation formelle leur a été adressée par Bamako. Ils appellent les autorités maliennes à remédier rapidement à cette situation. Bref, Juan, 2 jours et 2 communiqués supplémentaires après le début de cette affaire, c'est la même incompréhension. Il faut dire aussi que cet épisode danois s'ajoute à une longue liste de points de friction. Le recours par le Mali à des soldats russes, que certains États occidentaux assimilent à des mercenaires du groupe Wagner. Il y a aussi les difficultés liées à l'espace aérien du pays, puisque la MINUSMA a vu ses avions cloués au sol pendant 4 jours la semaine dernière. Alors le gouvernement de transition brandit la défense de sa souveraineté nationale, mais du coup, c'est vrai que les pays qui soutiennent militairement le Mali se demandent aujourd'hui s'ils sont vraiment bienvenus. Alors pour le moment, Dieudonné, officiellement, ni le Mali ni ses partenaires ne souhaitent mettre un terme à leur collaboration, mais plus que jamais auparavant, la question se pose, comment continuer dans ces conditions.
Et on en parlera demain dans la libre antenne. Plusieurs auditeurs justement de Bamako nous ont contactés ces derniers jours pour commenter ce sujet. Dieudonné, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, parfaitement, répondu.
Bon, bonne journée à Lomé, merci de nous écouter dans la capitale togolaise. David Baché, journaliste au service Afrique de RFI, bonne journée également. 9h17 à Paris, des questions maintenant concernant Barkhane, l'opération militaire française au Sahel. Bonjour Mamadou.
Bonjour Juan Gomez et à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
À Abidjan, en Côte d'Ivoire, nous vous écoutons.
Oui, après la prise du pouvoir des militaires burkinabés au Burkina Faso, comment envisager l'avenir de l'opération Barkhane ?
Les conséquences du coup d'État au Burkina Faso sur l'intervention militaire française au Sahel, c'est une bonne question. Bonjour Franck Alexandre.
Bonjour Juan.
En direct de Bamako, spécialiste des questions défense à RFI, il est certainement trop tôt pour spéculer sur l'avenir de Barkhane et notamment des forces spéciales françaises engagées au Burkina Faso contre les djihadistes, d'autant que le nouvel homme fort du pays ne s'est pas encore exprimé, il n'a pas fait connaître ses intentions vis-à-vis de la France. Mais la question se pose, Franck.
Et oui, néanmoins, il n'est pas exagéré de dire, Juan, que l'avenir de l'opération Barkhane en ce début d'année est plutôt gris foncé. Il ne vous a pas échappé qu'Evgeny Prigojine, réputé proche de Vladimir Poutine, homme des bases œuvres de Moscou en Afrique, soupçonné d'être le patron des mercenaires de la Wagner, s'est félicité du coup d'État à Ouaga. Mardi, l'un de ses bras droits, Alexandre Ivanov, connu, lui, pour être l'un des représentants des instructeurs russes en Centrafrique, estimé que la France n'avait obtenu aucun succès dans la lutte antiterroriste dans la région. Et il s'est dit prêt à participer à la formation de l'armée du Burkina si les autorités en faisaient la demande. La question est donc aujourd'hui de savoir si le nouveau pouvoir burkinabé va suivre la même trajectoire que la junte malienne, car ici à Bamako, la situation est de plus en plus délétère, ambiance tendue, le sentiment anti-français prospère et les manifestations contre la présence française se multiplient. Les Russes sont perçus comme des libérateurs. Et il n'y a pas que des instructeurs russes ici. Il y a quelques jours, le commandement américain pour l'Afrique indiquait à son tour que la Wagner était bien présente, 500 hommes déjà déployés dans le centre du pays. Difficile de le confirmer, car ici, tout est très opaque au Mali.
Oui, vous parlez du Mali, où les autorités de la transition multiplient les messages d'hostilité vis-à-vis de la France, la junte qui, on le voit bien, tente de déstabiliser Barkhane.
Oui, en dénonçant par exemple les accords de défense avec la France, en tentant de délégitimer la présence des partenaires européens de Takuba, le mot d'ordre du camp français aujourd'hui, c'est patience, espérant que les sanctions économiques finiront par faire cesser l'aventurisme du colonel Goïta. Et si les effets escomptés de l'embargo ne se produisent pas, si les partenaires européens se lassent de cette situation, il faudra alors prendre une décision. Barkhane ne pourra pas rester indéfiniment dans des pays qui n'en veulent plus. Ce n'est pas le cas de figure aujourd'hui. Paris reste déterminé à poursuivre la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel. Et ce, malgré le coût humain, l'armée française, je vous le rappelle, va aujourd'hui honorer la mémoire du brigadier Alexandre Martin, qui est tombé à Gao samedi dernier.
Alexandre Martin, le 53e soldat français tombé au Sahel. Merci beaucoup Franck Alexandre. Mamadou, a-t-on répondu à vos questions, à votre question ?
Parfaitement, oui.
Bonne journée à Abidjan et merci à Franck Alexandre en direct de Bamako où il est 8h20. Vous écoutez le journal de RFI, vous souhaitez un complément d'information et bien surtout n'hésitez pas, appelez-nous, faites-le avant l'émission évidemment, ça nous laisse le temps de contacter nos experts ici au sein de la rédaction, nos envoyés spéciaux mais aussi nos correspondants. C'est le cas par exemple l'une de nos correspondantes, Charlotte Hydrac, bonjour.
Oui, bonjour, vous allez bien ?
Très bien, ravi de vous avoir avec nous ce matin. On s'est permis de vous appeler, Charlotte, vous êtes correspondante permanente de RFI au Sénégal. On a justement reçu des questions après les élections municipales et départementales de dimanche au Sénégal. Victor, bonjour.
Bonjour Juan.
À Dakar, dans la capitale, nous vous écoutons avec Charlotte Hydrac.
Bonjour Juan, moi j'ai deux questions. Les élections municipales ont été marquées par une défaite de la coalition au pouvoir dans plusieurs grandes villes, même si elle dit rester très majoritaire à l'échelle du pays. Premièrement, j'aimerais savoir comment expliquer ce rejet de la coalition Benno Bokayaka dans les grandes villes, alors qu'elle dit remporter une grande victoire ailleurs.
Allez, c'est vrai que ces élections, Charlotte Hydrac, ont réservé des surprises. Hein. La coalition présidentielle a perdu dans des bastions stratégiques, à commencer par Dakar, la capitale, mais aussi Ziguinchor en Casamance, Kaolack ou encore Diourbel. Comment peut-on l'expliquer, Charlotte ?
Alors, pour ce qui est de Dakar, c'était un objectif de conquête hein, pour la majorité, la coalition Benno Bokayaka, puisque vous savez, la capitale est déjà aux mains de l'opposition. Ça fait longtemps, hein, depuis 2009, la mairie de Dakar échappe au pouvoir. Elle a été dirigée par Khalifa Sall, qui est aujourd'hui l'un des leaders de la coalition d'opposition Yewi Askanoui, puis par son adjointe Sohamel Wardini après ses déboires judiciaires. Dakar, donc, reste une ville rebelle, hein, en quelque sorte. À Ziguinchor, en Casamance, l'équation était différente, avec la candidature d'un leader national de l'opposition, en l'occurrence Ousmane Sonko, qui était arrivé troisième à la dernière présidentielle, qui avait fait de très bons scores en Casamance en 2019, et la région est considérée comme son fief. Alors, de manière générale, quand on pose la question aux électeurs, quand on les interroge sur leur désaveu de la majorité, il y a plusieurs arguments qui reviennent. Il y a des raisons de contexte, hein, socio-économique, le chômage des jeunes, la cherté de la vie, etc. Il y a des critiques sur la gouvernance avec des affaires, par exemple celle d'un présumé trafic de passeports diplomatiques par des députés de la majorité, ça revient. Il y a le sentiment d'une majorité déconnectée des réalités quotidiennes. D'ailleurs, pour l'éditorialiste Babacar Justin Ndiaye, qui est notre invité hein, sur RFI ce matin, l'ombre des émeutes de mars a plané sur ces élections. Ces manifestations, hein, vous vous en souvenez, meurtrières, où beaucoup de jeunes avaient exprimé leur ras-le-bol, leur frustration sur fond de restrictions liées au Covid. Oui. Et puis, je termine, il y a en toile de fond aussi ce débat latent sur une éventuelle candidature de Macky Sall à un troisième mandat en 2024. L'opposition en avait fait un des thèmes de campagne. Hein. Macky Sall qui est au pouvoir depuis près de 10 ans maintenant, depuis 2012.
Oui, mais Charlotte, Victor le disait à l'instant, la majorité, elle affirme pourtant avoir massivement gagné ces élections.
Oui, bon, c'est de la politique. Hein. Si on regarde de manière arithmétique, dès lundi soir, la coalition Benno Bokayaka assurait avoir remporté 32 départements sur 43, avoir des tendances favorables dans 7 autres. Un autre chiffre, rapidement, elle dit avoir gagné 10 capitales régionales sur les 14 que compte le pays. Bon, cela dit, il faudra voir hein, avec les résultats complets et compiler ce que cela représente en nombre d'électeurs, sachant que la région de Dakar, par exemple, ça représente déjà un quart des inscrits. Et puis bon, il y a l'aspect symbolique, hein, les grandes villes, et puis des communes où des ministres, des proches du chef de l'État ou des membres de sa famille ont perdu.
Autre question, Victor, une dernière.
Oui, ces résultats sont-ils un bon indicateur pour les législatives qui se déroulent dans 5 mois, voire la présidentielle de 2024?
Oui, c'est vrai, Charlotte Hydrac, ces élections avaient des allures de test national pour Macky Sall, mais aussi pour l'opposition. Est-ce que le scrutin de dimanche permet de faire le point aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, sur les rapports de force?
C'est un signal, hein. C'est sûr que c'est un signal pour les législatives qui sont prévues en principe là dans quelques mois, au mois de juin. Même si on ne peut pas calquer les résultats d'une élection sur une autre, Bon, c'est un signal. Ça laisse peu de temps, hein, vu la date prévue de ces législatives, ça laisse peu de temps à la coalition présidentielle pour se réorganiser, pour se restructurer. Du côté de l'opposition, Yehui Askanoui, donc son objectif, c'est de continuer sur sa lancée, sachant que dans sa charte, hein, quand elle a été créée, il est prévu que l'alliance tienne aussi pour les législatives. Donc la coalition devrait présenter des candidats au nom donc de Yehui Askanoui, mais ensuite, pour la présidentielle, ça ne tient plus. Différents candidats pourront se présenter. D'ailleurs, Ousmane Sonko a déjà affiché ses ambitions pour 2024 et Khalifa Sall aussi. D'ici là, d'ici les législatives, on attend là la nomination d'un Premier ministre. Est-ce que ce sera un potentiel dauphin pour Macky Sall ou pas? Ça, on verra. Et puis, il devrait aussi y avoir du mouvement au sein du gouvernement.
Quels enseignements après les élections locales? On n'a pas eu l'occasion de lancer le débat cette semaine sur RFI, mais si vous êtes au Sénégal, appelez-nous, on a envie de vous entendre, on vous donnera la parole demain dans la libre antenne. Victor, a-t-on répondu à vos questions?
Oui, parfaitement, parfaitement, merci.
Bonne journée à Dakar, où on nous écoute sur les 92 FM. Bonne journée également à Dakar, Charlotte Hydrac, et à très vite, évidemment, sur notre antenne. On termine avec vous, Modeste, bonjour.
Bonjour, Juan, bonjour la RFI et ses millions d'auditeurs à travers le monde, et bonne année.
Bonne année à vous également, Modeste, à Douala, au Cameroun. Quelles sont vos questions?
Timane Erdemi, le frère de Tom Erdemi, l'opposant tchadien, a affirmé la semaine dernière sur l'antenne de la RFI que son frère Tom est vivant. D'après ses proches, Tom a été arrêté par les agents du service secret égyptien. Ma question est de savoir, pourquoi a-t-il été arrêté en Égypte et quels sont les motifs de sa détention?
Alors, Tom Erdemi, effectivement, il avait disparu depuis la fin 2020 en Égypte. Et comme vous le disiez, Modeste, Timane Erdemi, qui vit au Qatar, a confirmé à RFI que son frère jumeau était en vie. Bonjour Esdras Dikoumana.
Bonjour Juan, bonjour tout le monde.
Journaliste au service Afrique de RFI. Que sait-on, justement, sur les circonstances de son arrestation il y a plus d'un an en Égypte?
Alors, première précision tout d'abord, c'est que son arrestation n'a jamais été justifiée, d'autant plus qu'elle n'a jamais été reconnue officiellement par les autorités égyptiennes. Donc, comme vous le disiez, nous faisons un petit retour en arrière pour comprendre. Tom Erdemi a été le premier chef de cabinet du président de fait, Idriss Déby Itno. C'était en 1991. Il va ensuite occuper plusieurs postes de premier plan au Tchad avant de passer dans l'opposition en 2005. Il devient alors l'un des principaux conseillers de son frère jumeau Timane Erdemi, qui va lancer une attaque donc, de son mouvement UFR contre le Tchad, donc, et va progresser dans le pays jusqu'aux portes de N'Djamena, où il va être arrêté en 2008 par des bombardements de l'aviation française. Alors, les deux frères sont alors condamnés à la peine capitale par un tribunal de N'Djamena. Tom Erdemi s'exile aux États-Unis, qui va quitter pour l'Égypte, où il va obtenir le statut de réfugié politique. J'ai vu ce document. Se sentant surveillé alors, il serait passé dans la clandestinité en septembre de 2020, avant d'être arrêté fin 2000 par les services services secrets égyptiens sur la demande des services secrets tchadiens assure sa famille. Les services secrets tchadiens, bien sûr, l'ont toujours nié. Depuis, la famille de Tom n'avait jamais eu de nouvelles de première main sur ce qui était advenu de lui jusqu'à la semaine dernière, donc lorsque son frère Timane a annoncé qu'il avait en fait une première preuve de vie.
Oui, preuve fournie par un des neveux de la famille qui a pu se rendre au Caire, visiter effectivement Tom Erdemi. Modeste voulait savoir si justement Tom Erdemi sera prochainement libéré, puisque pour l'instant il est encore en prison.
Oui, alors, on ne peut pas le savoir exactement. Donc, comme vous venez de le dire, lorsque le président du CMT, c'est-à-dire Mahamat Idriss Déby Itno, est allé en visite officielle dernièrement en Égypte, il est parti dans sa délégation avec le neveu de Timane, qui est aussi un parent du président de transition tchadien, et donc c'est celui-là donc qui a pu visiter Tom Erdemi dans sa prison proche de N'Djamena. Alors
Justement, le neveu serait resté sur place, visiblement, pour préparer la procédure qui permettra de libérer Tom Erdimi dans les prochains jours, les prochaines semaines. On rappelle quand même que cette libération est une des conditions fixées par Timan Erdimi pour participer au dialogue national inclusif qui doit commencer théoriquement à la mi-février. Merci beaucoup, Ezra Zikoumana.